Libre-échange.
Ravi de vous retrouver comme chaque semaine sur Aswath pour parler business, économie, secteur, ce qui bouge dans l'actualité économique. Et cette semaine, je vais dire très franchement, je suis très 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 heureux parce que on est encore mi-mars, à quelques jours du 8 mars, mais on devrait célébrer les femmes tous les jours. Ce n'est pas fait exprès, c'est simplement le hasard du calendrier. J'ai deux femmes dans le studio d'Aswath et j'en suis ravi. Notre invitée cette semaine est Neila Tazi, la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives au sein de la CGM. Merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation, Neila Tazi.
Merci, Tami, pour l'invitation.
Et je voudrais aussi préciser que vous êtes chef d'entreprise, vous dirigez un groupe de communication et vous êtes la productrice, vous êtes l'âme d'une partie de la vie sur une année des Sawira avec le festival Gnawa qui est reconnu dans le monde entier aujourd'hui et qui fait des Sawira une ville visible dans le monde. Donc les industries créatives, les industries culturelles, c'est quelque chose... Vous êtes tombée dedans toute jeune ou quoi ?
Écoutez, je suis tombée dedans, oui, en quelque sorte, parce qu'on m'a toujours donné goût à la musique, au cinéma, à la culture. J'ai eu une ouverture à travers ma famille et notre manière de vivre. Mais disons que j'avais une attirance particulière pour la musique. Et je suis très heureuse de pouvoir dire que ce festival existe depuis 21 ans. Et que c'est une très belle aventure.
Vous avez déjà les dates pour cette année ?
Oui, tu vas au 24 juin.
24 juin, ouais. Voilà. Au moins, comme ça, c'est fait. On les a annoncés. 24 juin, vous les avez en avant-première sur Aswath. Et je disais que vous êtes la porteuse, l'âme de ce festival. Mais ce n'est pas le seul champ culturel auquel vous apportez votre touche, puisque dans votre groupe, vous avez d'autres activités où vous apportez votre contribution au secteur
de
la culture.
Oui, tout à fait. Moi, j'ai un groupe qui s'appelle A3 Group, qui est composé de deux agences, A3 Communication et Réseau Production. Donc, nous faisons de la culture parce que nous avons une passion pour la culture, mais évidemment, nous faisons beaucoup d'autres choses. Nous faisons des relations presse, de la communication globale, de l'organisation d'événements institutionnels, économiques, tout type d'événements, parce que ça, c'est vraiment la partie métier, corporate, et la culture, c'est une passion.
Voilà. Je disais que j'avais deux dames dans le studio. Merci beaucoup, Neila Tazi. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives et que vous êtes notre invitée dans le libre-échange. La seconde dame, c'est une journaliste, David Eco, qui a fait le déplacement. C'est la première fois qu'elle est dans les studios d'Aswath, mais j'en suis ravi. Merci beaucoup, Fedou Amis, d'avoir traversé la ville pour nous rendre visite.
J'habite juste à côté. Je suis super contente d'être là. Et justement, c'est la première fois que je suis là. Et j'espère que Aswath va continuer à inviter la journaliste culture pour parler de sujets culturels.
Bien sûr, parce qu'on a besoin de culture pour mettre du lien pour tout le reste. Neila Tazi, je voudrais commencer par vous demander, cette Fédération des industries culturelles et créatives, qui est une nouveauté à la CGM, elle est au sein du patronat. Qu'est-ce qui s'est passé ? Il s'est passé une rupture. D'un seul coup, les patrons s'intéressent à ce qu'on avait mis de côté pendant des années, le champ culturel ?
Je pense que beaucoup de patrons se sont toujours intéressés à la culture parce qu'on voit bien qu'il y a beaucoup de fondations d'entreprises, des grandes entreprises. Il y a des choses qui se font. Il y a beaucoup d'entreprises qui soutiennent des actions culturelles, que ce soit des festivals, des éditions de livres, de beaux livres d'art. Le cinéma aussi. Il y a des sponsors. Mais là, c'est une approche qui était complètement différente. C'est une fédération que nous avons créée en mars 2017. Parce que le but était de sortir la culture de cette image d'un secteur qui est complètement en marge de tout le reste, un secteur un petit peu atomisé avec des acteurs qui sont très dispersés. Chacun se débrouille un petit peu comme il peut, du mieux qu'il peut, un petit peu avec le secteur privé, un petit peu avec les pouvoirs publics, dans une espèce de démarche de quête et de mendicité permanente d'un peu de budget pour faire quelque chose. Il y en a marre de ça. La culture, c'est un secteur à part entière. Il y a beaucoup de pays développés qui en ont fait la démonstration. C'est un secteur qui est créateur de valeur, c'est un secteur qui est créateur d'emplois et c'est un secteur auquel nous devons donner toute la chance et la force et la visibilité possible et les moyens de décoller. Surtout qu'aujourd'hui, on parle d'un nouveau modèle de développement pour le Maroc. Ce modèle de développement, il se fera avec la culture. Nécessairement, parce que nous avons un problème de croissance, nous avons un problème de création d'emplois, nous avons un problème, je dirais, de mise en synergie de certaines stratégies. Et aujourd'hui, la culture, c'est un potentiel dans notre pays. Nous avons énormément de talents, nous avons beaucoup de capital culturel, de capital immatériel, beaucoup de capital historique, beaucoup de choses à donner en partage.
Un patrimoine et une potentialité de développement.
Tout à fait, mais ce qui manque, c'est le cadre. c'est déjà un espace pour porter la voix des acteurs, pour les fédérer. Je vous donne un exemple tout simple. Nous avons aujourd'hui tous un rendez-vous très important, si Tammy, vous devez forcément être au courant, bien entendu, qui sont les assises de la fiscalité.
Exact, c'est début mai, 3-4 mai.
Aujourd'hui, du
3-4 mai.
fait d'avoir une fédération au sein de la CGEM qui porte la voix d'un secteur, c'est donner la possibilité à ce secteur d'avoir des doléances et des revendications et de faire des propositions dans le cadre de ces assises. Voilà, déjà, simplement. Mais évidemment, ça nécessite un travail colossal. Parce que pourquoi? Nous devons aller vers les gens et les acteurs qui composent ce secteur. On ne peut pas aller vers tout le monde, ça va être un travail de très longue haleine, mais il faut commencer. Il faut commencer, il faut avoir foi en l'avenir.
Alors, on va vous demander aujourd'hui combien d'entreprises constituent cette première, c'est inédit, c'est la première fois que le patronat a sa fédération des industries culturelles et créatives. Vous avez combien d'entreprises dans vos rangs aujourd'hui?
Alors, aujourd'hui, nous avons, un an après la création de la fédération, 40 membres. Donc, ce sont des membres qui sont composés d'entreprises.
Oui.
Donc, on a des entreprises, on a des associations, des fondations de grandes entreprises, type CDG, Banque Populaire, Fondation Ténor, des grandes entreprises qui ont développé des actions et des stratégies en direction du secteur
Des
culturel.
fondations qui elles-mêmes ont des activités qui soutiennent la culture au travail ou
Exactement,
produisent de la culture.
exactement. Et nous avons des unions professionnelles qui sont des unions d'éditeurs, des associations de métiers de la musique, des unions de réalisateurs de cinéma. Donc, des unions qui sont importantes parce qu'elles portent la voix de tous ces acteurs qui ne sont pas constitués en entreprise, mais qui sont là et qui composent un secteur qui a besoin d'exister et d'être défendu.
Fais-toi mes claviers échos.
Alors, justement, vous parlez de ce secteur comme possiblement générateur d'emplois. Souvent, la presse nous sort, et moi y compris, des chiffres tels que qu'en Espagne ou en France, par exemple, l'industrie culturelle est génératrice de plus de revenus que l'industrie automobile. Ça,
Tout à
c'est
fait.
quand même des chiffres
Cette fois.
voilà, très
Dans le
éloquents.
PIB, cette fois,
Alors,
le poids de l'industrie automobile, c'est le poids de la culture.
rien que ça. Alors, aujourd'hui, pour convaincre des entrepreneurs de s'investir dans la culture, d'investir dans la culture, il faut déjà avoir un état des lieux, des chiffres. Est-ce que la fédération dispose aujourd'hui de chiffres concernant la culture?
Alors, il y a très peu de chiffres sur la culture. Il y a des données du ministère de la Culture pour ce qui est un petit peu de l'état des lieux du secteur. Mais on manque de chiffres sur les réalités économiques, l'emploi, toutes ces questions. Par exemple, je vous cite en exemple le dernier rapport du HCP sur les chiffres au Maroc. En 2018, vous avez tous les secteurs qui sont listés. Transport, tourisme, santé, éducation, tout, télécom, tout est cité, mais pas la culture. Déjà ça va être une de nos demandes, c'est d'aller à la rencontre du HCP, de leur demander qu'à l'avenir, la culture, pardon, soit prise en considération comme un secteur à part entière et que dans les enquêtes, soit la culture soit traitée à part, pour qu'on puisse commencer à avoir des chiffres. On voit par exemple que les dernières statistiques de consommation des ménages, qui datent de 2013-2014, la culture est intégrée avec l'éducation, le loisir. On voit d'ailleurs que dans les quatre grandes catégories de consommation, qui sont l'alimentation, la santé, l'habitat, l'énergie et celui des loisirs, justement de l'éducation, celui de l'éducation des loisirs et de la culture a augmenté. Donc c'est une bonne chose. Mais on sait aussi que les Marocains se saignent pour l'éducation de leurs
Bien
enfants.
sûr.
Donc ce n'est pas nécessairement une dépense qui est dans le secteur de la culture. Or, nous devons aujourd'hui avoir des chiffres, nous cherchons à avoir des chiffres. Ce que je cherche à préciser, c'est que, ce que je voudrais préciser, c'est qu'en 2016, il y a eu un rapport du Conseil économique, social et environnemental qui est extrêmement intéressant. Parce que à l'issue de toutes les auditions qui ont été menées par le Conseil, le rapport fait des recommandations. Parmi ces recommandations, il y a la nécessité de revoir de fond en comble toute la stratégie du secteur culturel. Il faut avoir une vision nouvelle, il faut innover, il faut revoir complètement la stratégie, il faut aussi revoir la question du financement de la culture parce qu'aujourd'hui, c'est un secteur qui est fragile. On ne fait pas confiance aux acteurs
Justement.
culturels. Les banques ne leur font pas confiance. Il faut recréer cette confiance et il faut porter, il faut lobbyer entre guillemets auprès de tous les acteurs politiques, économiques. Je rappelle que je suis parlementaire et que je siège au secteur dans la commission de la culture, de l'éducation et des affaires sociales. Donc, il faut l'oublier partout pour dire que la culture est un atout pour notre pays. Elle va développer l'emploi.
Un secteur certain. Alors, je voudrais poser la question par rapport à la stratégie. Vous en avez parlé. Souvent, ça revient souvent dans nos dialogues, nos discussions avec la plupart des acteurs culturels, c'est qu'on parle souvent de l'absence d'une politique culturelle au niveau du ministère ou au niveau
de
l'État. Alors, est-ce que aujourd'hui la fédération veut être partie prenante de l'élaboration d'une stratégie? C'est-à-dire, elle va aller voir le secteur public, l'État, pour lui dire...
Ça fait partie de vos ambitions.
Voilà. Oui, et c'est pour ça que c'est très intéressant de le faire dans le cadre de la CGM, parce qu'à la CGM, on a accès à de l'information, on a accès à des programmes, on a accès à des visions. Je vous donne un exemple. Une des grandes revendications de toutes les filières qui composent cette fédération, c'est la formation. La formation. Il y a un grave déficit de formation. Nous allons, par exemple, ouvrir des grandes infrastructures, des théâtres, comme le théâtre de Casablanca, et on manque de ressources qualifiées pour répondre à la demande d'emploi pour ce type d'infrastructure. Tous les secteurs ont besoin de formation. Or, aujourd'hui, nous savons que la CGM a beaucoup travaillé sur cette question. Il y a des partenariats avec l'OFPPT, il y a l'Observatoire des branches et métiers. Il y a tellement de choses, mais les acteurs ne le savent pas. Donc, on va aller leur amener l'information, on va leur proposer des solutions. Et en même temps, avec les pouvoirs publics, nous allons travailler pour voir comment on peut tirer un meilleur profit de tout ce qui existe pour aider au décollage de ce secteur.
Alors, Neila Tsezi, je rappelle pour les auditeurs qui peut-être se sont joints à nous il y a quelques instants que vous êtes notre invité en libre-échange et que vous êtes la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives. Je vais y arriver. Quand on parle d'industrie culturelle, d'abord, il faut qu'on accepte de mettre les deux mots ensemble. Et j'ai l'impression que le patronat et que les gens de la culture ont déjà fait une première mue pour lier la culture et l'industrie, et parler d'industrie culturelle. Pour moi, c'est déjà un grand pas. J'aimerais vous demander, le patronat, c'est un syndicat de patrons. Est-ce que, d'une certaine manière, vous allez fédérer des toutes petites entreprises, parce que dans la culture, en général, ce sont plutôt des entreprises très petites, moins de 10 salariés, etc. Vous allez aller chercher ces entreprises?
Bien sûr, il n'y a pas de petites entreprises. Il n'y a pas de petite entreprise.
Pas par l'attention qu'elle mérite, mais par la taille, par le niveau de revenu, niveau de chiffre d'affaires,
oui,
etc.
Oui, on se comprend. Mais moi, je dis il n'y a pas de petite entreprise dans le sens où la CGM fédère des entreprises de toute taille. Et d'ailleurs, l'essentiel, plus de 90% des membres et des adhérents de la CGM sont des PME et ne sont pas des grandes entreprises, contrairement à l'image qu'on veut coller à la CGM depuis des années et que la CGM essaye dont la CGM essaye de se débarrasser en étant un acteur important du débat économique et social de ce pays. Oui, nous allons faire la démarche parce que nous devons aller les chercher, nous devons les convaincre. Il ne faut pas oublier qu'à la CGM, il faut cotiser. Il faut les convaincre. Et je pense que plus on avancera et plus les gens auront envie de cotiser parce que tout cela, ça demande des efforts, du travail. Et la CGM, c'est une association, mais qui est composée quand même d'une centaine d'employés.
C'est une structure bien organisée.
Il faut qu'elle soit forte, il faut qu'elle ait des adhérents. C'est culturel aussi, vous savez. Tiens, je vous le dis. Quand il s'agit de cotiser, on le sait, dans les syndicats d'immeubles, etc. Bon, c'est souvent très difficile.
C'est toujours les autres qui doivent mettre la main à la poche.
Et ça aussi, c'est une culture qui doit évoluer chez nous. Il faut qu'on apprenne.
Et beaucoup d'acteurs culturels ne payent pas, malheureusement.
Et les cotisations dans les associations. Non, là, je parlais par exemple des syndics d'immeubles parce que c'est des problèmes qui se posent.
Oui, bien sûr.
Pour juste dire que ça fait partie aussi, ça, de la culture.
Absolument. Je ne veux toujours pas payer parce que j'habite au rez-de-chaussée, je n'utilise pas l'ascenseur, etc. C'est classique, on connaît ça chez nous. Alors, j'aimerais revenir aux industries créatives, parce qu'on dit industrie culturelle, industrie créative. Est-ce qu'il y a... Alors, industrie créative, j'imagine, aujourd'hui, ça va de la vidéo à toutes les formes d'art et de créativité, des nouvelles activités qu'on retrouve, je ne sais pas, pour la décoration à la maison, pour la décoration des bureaux, pour tout ce qu'on peut imaginer de manière créative. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a au Maroc un vrai tissu d'entreprises, d'entrepreneurs dans ce secteur?
Bien sûr. Si vous prenez la filière de l'édition, il y a beaucoup d'éditeurs.
Oui.
Si vous prenez la filière du cinéma, il y a des producteurs. Si vous prenez la filière de la musique, là aussi, il y en a peut-être moins, mais il y a des labels. On a par exemple Big, qui est un label qui a adhéré à la fédération, bien sûr. Donc, il y a différentes filières. Nous avons 7 filières. Il y a l'audiovisuel, il y a le cinéma, il y a la filière spectacle vivant, il y a les espaces culturels. Quand vous regardez un investissement du type... le studio à Casablanca, qui est un investissement très très important, qui est à la fois un établissement de diffusion de culture avec un théâtre de 600 places, d'enseignement avec des cours. Il y a tout un tas d'entreprises dans les différentes filières qui investissent, qui veulent investir, mais à nous aussi de convaincre, de créer le cadre incitatif. Il faut, à un moment donné, il faut juste comprendre que...
C'est quoi le cadre incitatif ? Si vous parlez des artistes, les artistes ne payent pas, ils sont pas fiscalisés, ils ne payent pas d'impôts.
Le problème aujourd'hui, c'est qu'il y a des artistes qui sont, pour la majeure partie d'entre eux, qui sont un peu dans l'informel.
Oui.
Ils sont dans l'informel. Donc aujourd'hui, il faut les encourager...
Il faut qu'ils acceptent à rentrer dans le formel.
Exactement, rentrer dans un schéma économique avec une fiscalité adaptée. Vous regardez le secteur de l'éducation, il y a une fiscalité adaptée. Oui. Le secteur de la culture aujourd'hui, il est fiscalisé comme n'importe quel secteur.
Oui, à partir du moment où les gens sont visibles, c'est ça, Fedora. Hein.
Oui.
À partir du moment où ils ont une patente ou une taxe.
Effectivement.
Ils payent leur taxe normalement. Bon.
Alors qu'aujourd'hui, la culture, en fait, elle, dans ce nouveau modèle de développement, elle va devoir, à mon avis, être intégrée comme une activité à valeur ajoutée plutôt sociale qu'économique. Parce qu'aujourd'hui, ce dont nous avons besoin, c'est de capitaliser sur ce potentiel pour libérer des énergies et favoriser le décollage du secteur.
Fedora Misk-Lavieco, toute dernière question.
Alors, la toute dernière question, c'est à quand des assises culturelles, de la culture et des industries créatives?
Je ne m'engagerai pas sur ça.
Peut-être poser la question au ministre. Hein, peut-être qu'il nous écoute, voilà, monsieur le ministre. La question est pour vous. Il faudrait qu'on se demande quand est-ce qu'il y a des assises autour de la culture ou en fait les industries.
Je peux poser la question au Parlement S'il vous plaît,
on attend que ça.
Je voudrais évoquer avec vous peut-être un dernier sujet, si vous l'acceptez. Vous parlez de formation, de professionnalisation. Est-ce que d'une certaine manière, aujourd'hui, en parlant des industries culturelles et créatives au sein du patronat, on a réconcilié la culture et l'argent?
Je pense qu'ils n'ont jamais été fâchés. Je pense que la culture est désespérément à la recherche de l'argent qui se fait désirer.
Oui.
Qui se fait désirer.
Disons
que ce qui est pénible, c'est que beaucoup de personnes ne veulent pas comprendre qu'un projet culturel, c'est un projet comme un autre qui nécessite une planification, une organisation et une approche très structurée et visionnaire. Voilà, il faut juste qu'on comprenne que pour faire du bon travail en matière culturelle, pour rayonner au niveau national et international, pour faire évoluer les publics en matière d'appréciation de ce qu'est la culture, il faut juste accepter que c'est un métier comme un autre qui a besoin des mêmes conditions et d'approches très professionnelles.
Merci beaucoup, Neila Tazi. Je rappelle que vous êtes la présidente de la Fédération des industries culturelles et créatives au sein de la CGM. Et comme chaque semaine, je vais finir cette émission par quelques news, un top et un flop. Et je vais commencer par le flop. Vous savez qu'on est au mois de mars et que bientôt, il va y avoir déjà les conseils d'administration des entreprises cotées, que nous surveillons ce qui se passe sur la place financière de Casablanca et la place boursière en particulier. Et en général, lorsqu'on regarde les entreprises cotées, ça nous donne un peu les tendances aussi de l'état de santé de l'économie globalement en fonction des secteurs. Alors, mon flop aujourd'hui concerne cette information qui est tombée il y a deux ou trois jours et qui est un communiqué de presse, ce qu'on appelle un profit warning de la part des eaux minérales d'Oulmès. Et je rappelle que ces eaux minérales d'Oulmès ont fait partie des trois marques qui ont subi de manière très très forte le boycott. Alors, ils ne disent pas un mot sur le boycott, évidemment, mais d'une certaine manière, ils préparent leurs actionnaires et l'opinion publique à une situation économique difficile avec ce qu'ils ont vécu, malheureusement, au cours de l'année 2018. Et ils nous disent, je cite, « une conjoncture sectorielle marquée par un recul des ventes d'eau en bouteille de plus de 10% en valeur au niveau national et la crise ayant visé la marque Sidelli en particulier, explique donc la filiale du groupe Holmarcom dans son communiqué de presse. Aucune allusion, comme je disais, n'est faite au boycott de ces produits. Et donc le management des eaux minérales d'Oulmès se dit serein parce qu'il pense à la construction de ce qu'il faut faire dans l'avenir, des perspectives futures de croissance et vise à améliorer ses niveaux de rentabilité. On va conclure par un top parce que je préfère toujours conclure par quelque chose de positif cette émission. C'est Immorente pour laquelle on recevait sa présidente Immorente Invest, qui est donc une des entreprises qui est rentrée en bourse l'année 2018. Soumaïa Tazi, qui était dans nos studios, disait ceci.
En 2018, bien sûr, c'est une année d'investissement. Donc, comme 2018, les actionnaires, les futurs actionnaires nous donnent de l'argent, cet argent, on va l'utiliser. Il va commencer à être productif
en 2019.
Et à partir de 2019, nous redistribuons 6,5, 7,5%.
Eh bien, Soumya Tazi, présidente directeur général d'Immorant Invest, qui était dans notre studio il y a un peu moins d'un an, en avril 2018, elle doit être très contente parce qu'on peut dire qu'en définitive, le spécialiste d'actifs immobiliers professionnels à usage locatif va pouvoir tenir ses promesses auprès de ses actionnaires. Elle en a fait annoncer que son résultat net consolidé a atteint 3,7 millions de dirhams. C'est pas beaucoup, mais c'est toujours positif en 2018 contre ce qui était prévu, en tout cas contre un moins 2,1 millions de dirhams en 2017 et qu'il proposera ainsi à ses actionnaires la distribution d'un dividende de 6 dirhams par action, soit un rendement de 6% par rapport au prix d'introduction. Voilà, félicitations à ceux qui avancent et qui bougent, quel que soit leur secteur. C'est avec plaisir que je vous retrouve pour ma part la semaine prochaine. Vous savez où ça se passe ? C'est sur Aswat. À la semaine prochaine.